France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Une grève chez Le Bon Coin, c'est une première, en cause les conditions de travail. Le numéro 2 du e-commerce en France vient d'être racheté par deux fonds d'investissement. Explication à suivre. Les élections municipales, les discours se font de plus en plus violents dans cet entre-deux-tours. On va les décrypter. Parfois jusqu'aux menaces, illustration à Arcachon, davantage de femmes maires, nous serons en Mayenne. Et à 13h45, la suite de notre série de reportages, nous irons à Lille. À suivre encore le Liban sous les bombes israéliennes, ordre d'évacuation ce matin à Tyr, les familles fuient la ville. Reportage dans un instant, à Beyrouth, un violoncelliste dénonce la guerre en jouant dans les décombres. Nous l'écouterons. La stupeur au Sénégal. Bonjour Nathalie Yaneta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Le Sénégal privé de sa Coupe d'Afrique des Nations de football par les instances.
Elle avait duré 2h15 cette finale de la CAN et 2 mois jour pour jour après le coup de sifflet final. Elle vient de changer de vainqueur. On va tenter de vous expliquer pourquoi.
A tout de suite. Et puis les baignoires de moins en moins nombreuses dans nos salles de bain. Nous verrons pourquoi. À partir de 13h30, le phénomène maison de retraite. Après 2 films, c'est désormais une série sur TF1, La Vieillesse, sujet de fiction qui fonctionne. Le réalisateur Claude Zidi Junior et l'actrice Liliane Rovert sont nos invités. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h50, c'est la France. Éric Fotorino, la France et le pétrole. Juste avant 14h, c'est une chanson. Nous écouterons Bachung avec Guillaume Houzet, le patron des Galeries Lafayette. Sans oublier, dans une vingtaine de minutes, bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
Les sorties ciné de ce mercredi.
Oui, avec un thriller social très réussi, La Guerre des Prix, un film argentin aussi, Las Corrientes, et un documentaire théâtral, ça s'appelle Précieuses comme les précieuses ridicules.
Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est l'un des sites internet les plus consultés par les Français pour acheter et pour vendre. Le Bon Coin, 30 millions de visiteurs par mois pour le site d'e-commerce, 1500 salariés. Appelé à la grève aujourd'hui, et c'est une première dans l'histoire de cette entreprise fondée il y a 20 ans. Bonjour Luc Chemla.
Bonjour.
Une centaine de salariés ont même manifesté ce matin devant le siège de l'entreprise à Paris.
Oui, dont l'entrée principale est fermée pour l'occasion. Les salariés doivent passer par des petites portes gardées par 2 agents de sécurité. Juste devant flottent les drapeaux CGT, CFDT, Solidaires. Céline et Marie, 2 développeuses pour le site internet, ne sont pas syndiquées et pas vraiment à l'aise d'être grévistes. Mais le durcissement des mesures sur le télétravail, alors qu'elles habitent à Paris, à 1 heure même de Paris, elle les a fait sortir dans la rue.
On a l'impression qu'on nous punit. J'étais embauchée sur un contrat un jour de présentiel et le reste en télétravail. Et là, ils nous poussent à revenir 3 jours par semaine. Ils disent qu'on est moins performant, mais moi, quand je suis en présentiel, je suis moins performante.
J'ai 2 enfants, je suis en garde alternée. Donc en fait, j'ai une organisation, on va dire, millimétrée. J'ai peur de simplement pas pouvoir tenir le rythme imposé par la société.
Et la colère est aussi provoquée, selon les grévistes, par l'absence de hausse collective des salaires, les changements perpétuels de managers. Et plus globalement, un mal-être, déplore Florine Moutoussamy, représentante CGT du personnel.
Il n'y a pas un seul jour où je ne suis pas sollicitée par un salarié différent par rapport aux conditions de travail. On est toujours dans l'incertitude en fait, de ce qui va se passer d'un point de vue organisationnel et aussi la pression. Dans certaines équipes, il y a des réelles souffrances.
Et qu'il faut augmenter de manière exponentielle, d'après elle, le nombre d'arrêts maladie.
Et ce mouvement, Luc, est aussi une conséquence du rachat de l'entreprise par 2 fonds d'investissement, l'un américain, l'autre britannique.
Ah oui, Blackstone et Permira, il y a 2 ans, un tournant pour certains salariés qui dénoncent depuis une logique de profit au détriment du bien-être des salariés. De son côté, la direction dit adapter régulièrement son organisation pour, je cite, rester aligné avec ses priorités stratégiques et les dynamiques du marché.
Explication Luc Chemla. Les dés sont jetés pour les élections municipales. Le second tour, dimanche, dans 5000 communes seulement, là où aucune liste n'a obtenu la majorité des voix dimanche dernier. Et ces élections confirment que la politique au niveau local est souvent le cadre de pression, menace, voire violence. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Dernier exemple en date, Arcachon en Gironde. Le maire LR de la commune, Yves Foulon, a été filmé dimanche en train de menacer et d'insulter son rival écologiste. à tel point que le patron de son parti, Bruno Retailleau, lui demande de s'excuser.
Pas question pour le moment de sanctionner le maire d'Arcachon. Ça peut attendre, nous glissait l'entourage de Bruno Retailleau. Ce matin, le Vendéen condamne ce comportement, mais critique également l'attitude du candidat écologiste pendant la campagne. Dans les statuts des Républicains, pas de mention évidente sur cette question. Rien n'interdit d'être un enfoiré, lance Cinglant, un proche de Laurent Wauquiez. Dans les autres camps politiques, les réactions sont fermes. Autour d'Emmanuel Macron, on fustige un comportement condamnable et on renvoie la balle vers LR pour décider de l'avenir, dit Foulon dans le parti. La patronne des Verts, Marine Tondelier, y voit une honte pour la République et appelle le maire sortant à démissionner.
Et ce cas n'est pas un cas isolé.
C'est l'image du baron local, ses maires, réélu au premier tour avec beaucoup de voix sans jamais être défié. Ça peut durer des décennies, parfois rien d'anormal derrière, mais dans certains cas, discrètement, ça cache des menaces, des pressions pour écraser toute forme de concurrence politique sur la scène locale. C'est ce que nous confient des opposants dans une grande ville des Alpes-Maritimes. En Lozère, c'est aussi cet élu qui intimide pour obtenir une certification d'une fausse signature, ou alors cette commune du littoral, un bâtiment racheté par la commune pour 500 000 euros, pourtant évalué largement en dessous par des experts, des insultes dans les couloirs d'une autre mairie, ou encore ce conseiller municipal garde rapproché d'un élu qui s'en prenait aux membres de l'opposition. Il avait menacé les traîtres de finir dans l'eau en Corse avant d'être condamné par la justice.
Mathieu Bonnour, continuons de nous intéresser au discours que tiennent les responsables politiques depuis dimanche, chaque camp accusant l'autre de s'arranger avec les extrêmes. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Si je résume Maxence, la droite et l'extrême droite seraient fascistes, la gauche et l'extrême gauche antisémites.
Oui, le rejet pour seul projet. On se croirait dans l'entre-deux-tours d'une présidentielle où les mots n'ont plus vraiment de sens. Il faut mobiliser à tout prix. Le PS parle maintenant de LFI comme de la gauche classique et fait de Rachida Dati, en 24 heures, la candidate de l'extrême droite. Olivier Faure dramatise.
Je vois partout en France la droite et l'extrême droite qui s'allient partout.
C'est faux, elle se compte formellement sur les doigts d'une main et les élus LR sont exclus à chaque fois. Mais ce matin, leur chef Bruno Retailleau refuse de soutenir Christian Estrosi à Nice, étant donné, je cite, la campagne délétère, manière de soigner l'allié du RN Éric Ciotti, d'entretenir la confusion. Pas une voix pour la gauche, a-t-il clamé cet automne dans un duel entre une PS et un élu de chez Ciotti. Le Front Républicain devient ainsi l'arme magique. On ne vote plus avec un dictionnaire mais avec ChatGPT. Vous devenez antisémite ou fasciste, au choix. Le maire de Toulouse, qui a quitté LR il y a 4 ans à cause de sa droitisation, devient le pire de la droite pour justifier la fusion LFI-PS. Mais à Carcassonne, droite et gauche fusionnent pour éviter une victoire du RN, pendant que LFI fustige les écolos à Lille, mais les soigne à Strasbourg. Le tout au nom des valeurs, alors que ce n'est qu'une histoire de boutique.
Décryptage signé Maxence Lambrecq. Vous parliez de Nice, justement, Maxence. Un broglio chez les Républicains, puisque vous l'avez dit, Bruno Retailleau, le patron du parti, refuse de soutenir le maire Christian Estrosi face à Éric Ciotti. Mais la commission d'investiture des Républicains, elle, a contredit son chef dans la matinée, puisqu'elle, elle apporte au contraire son soutien à Christian Estrosi. Et puis les mots d'Emmanuel Macron ce matin en Conseil des ministres, qui a critiqué les arrangements des partis et estimé que les extrêmes demeuraient dangereux. Fin de citation. Alors dans les communes qui ont déjà élu leur maire, on peut tirer un bilan de ces élections, notamment de la place des femmes. Car dans les communes de moins de 1000 habitants, pour la première fois, les listes étaient paritaires. Cela conduit davantage de femmes au fauteuil de maire, 8 de plus qu'en 2020 dans le département de la Mayenne, Gwendoline Langlois.
Christine De Dieu est la première femme à devenir maire de Saint-Aubin-du-Désert, commune de 223 habitants accolée à la Sarthe.
C'est une fierté.
La toute jeune retraitée de 67 ans a été conseillère municipale, première adjointe et tête de liste pour la première fois.
On ne s'est même pas posé la question t'es une femme. Non, même pas. C'était naturel.
Dans les conseils municipaux, elle n'a jamais eu de problème à prendre la parole, se faire entendre, mais qu'elle revête l'écharpe tricolore n'a pas plu à tout le monde.
Pour certains, la femme, la maison, plus qu'un homme, quoi. Mais bon, les mentalités changent, et heureusement.
Ça permet à plus de femmes de se présenter. C'est ce que constate Marie-Noël Tribondeau. Elle en est à son 5e mandat, réélue maire de Biernay-les-Villages, dans le sud Mayenne, avec 19 colistières prêtes à prendre la relève.
J'ai dans mon conseil, j'ai 26, 29, 28 ans. Voilà, elles ont des jeunes enfants et elles n'hésitent pas à donner peut-être la priorité à leur carrière professionnelle ou à leur engagement. Et ça veut dire qu'aussi, quelque part, le conjoint est présent pour, à un moment, partager les tâches.
Mais l'évolution vient très progressivement, relativise la maire de la commune de 1300 habitants.
Précision ici, Mayenne.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
La guerre au Moyen-Orient, toujours trois fronts, l'Iran, le régimentaire, son chef de la sécurité, tué hier par Israël. Nous serons à Téhéran dans un instant. Les pays du Golfe, à nouveau visés par l'Iran ces dernières heures. Et puis le Liban, Israël continue de frapper la milice chiite du Hezbollah. Des bombes dans le centre de Beyrouth ont fait au moins 12 morts et 41 blessés la nuit dernière. Alors que dans le sud du pays, plusieurs quartiers de la ville côtière de Tyr font l'objet d'un ordre d'évacuation de l'armée israélienne et des centaines de familles sont en train de fuir. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour Jérôme.
Vous vous trouvez à Saïda, à une quarantaine de kilomètres de Tyr. De nombreux habitants y ont trouvé refuge.
Oui, vous le disiez, des centaines de familles sont arrivées tard hier soir ou très tôt ce matin à Saïda après avoir reçu des appels téléphoniques ou avoir lu sur les réseaux sociaux l'ordre donné par le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe. Il était aux alentours de 22h, s'en sont suivies des scènes de panique et de gros embouteillages pour sortir de Tyr, nous disait une femme qui a dû attendre qu'une voiture puisse l'emmener avec ses trois enfants. L'armée israélienne a prévenu la population qu'elle allait frapper des cibles du Hezbollah en riposte à de nouveaux tirs de roquettes hier vers plusieurs localités du nord d'Israël. Les habitants de Tyr s'attendaient à devoir évacuer leur ville qui est largement favorable au parti chiite. Une maman nous expliquait qu'elle avait préparé des bagages depuis le début de l'offensive israélienne le 2 mars. Pour faire face à ce nouvel afflux de déplacés, la ville de Saïda a ouvert un département de la faculté des lettres de l'université libanaise où ils reçoivent de la nourriture, de l'eau, des couvertures, des matelas. Saïda est complètement saturée en termes de capacité d'accueil. Son maire que nous avons rencontré est inquiet. Il craint que l'exode des habitants du sud Liban ne continue dans les prochains jours et que sa ville ne soit plus en mesure de les accueillir.
Valérie Crova en direct de Saïda au Liban avec les moyens techniques de Fabien Gosset. Ce matin, le ministre français des Affaires étrangères en visite en Allemagne, Jean-Noël Barrot, s'est exprimé sur le Liban. Il a rappelé les engagements de la France.
Le premier, c'est de faciliter autant que de possible une discussion qui serait historique entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien au plus haut niveau, visant à créer les conditions d'un cessez-le-feu, d'un désarmement ordonné du Hezbollah et d'une coexistence pacifique entre les deux pays, de soutenir les forces armées libanaises dans leur effort pour désarmer le Hezbollah, mais aussi dans les efforts nécessaires pour qu'elles puissent reprendre le monopole des armes qui leur est dû et assurer la protection de toutes les communautés au Liban. Et puis enfin soutenir le peuple libanais qui est la première victime de cette guerre qu'il n'a pas choisie et dans laquelle il a été entraîné par le Hezbollah avec de l'aide humanitaire au sujet de laquelle nous nous coordonnons étroitement avec nos partenaires allemands et européens.
Le ministre des Affaires étrangères au micro de Sébastien Baer, notre correspondant en Allemagne. Et puis il y a donc cette image relayée hier par le journal libanais L'Orient Le Jour, d'un musicien, violoncelliste, qui joue au milieu des décombres. Nous sommes à Beyrouth Sud, le fief du Hezbollah, bombardé par Israël. Ce musicien s'appelle Mahdi El-Saïli. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Vous avez pu le joindre?
Oui, Mahdi El-Saïli qui vit en banlieue de Beyrouth. C'est là qu'il a donné ce concert et il y a deux jours. Quelques notes de violoncelle au milieu des décombres et des gravats encore fumants. Sur la vidéo publiée sur ses réseaux, on le voit concentré, les yeux fermés. Lui et son instrument comme seul au monde, presque. Au téléphone, il nous explique avoir d'abord voulu envoyer un message à tous les Libanais.
La musique est un message d'espoir, un langage pendant la guerre qui touche tout le monde.
Et il dit avoir repensé à ce violoncelliste, Vedran Smailovic, qui avait joué en plein siège de Sarajevo pendant la guerre de Bosnie. Comme lui, Mahdi El-Saïli a voulu faire entendre sa musique quelques minutes au milieu de ce conflit au Moyen-Orient.
Je n'ai pas peur quand je joue du violoncelle, j'oublie tout, la guerre. Je dois juste continuer à jouer pour partager ce message d'espoir avec le reste du monde.
Et Mahdi El-Saïli ajoute qu'il rejouera ailleurs au Liban s'il le peut.
Le témoignage de Mahdi El-Saïli que vous avez pu joindre ce matin, Camille Marigot. Allons en Iran maintenant, qui conserve, et on le comprend, la capacité de frapper les pays voisins après 19 jours de guerre. Même si les têtes du régime des Mollahs tombent jour après jour. Aujourd'hui, Israël annonce la mort du ministre du renseignement iranien. Hier, c'est le nouvel homme fort du régime, Ali Larijani, le chef de la sécurité, qui a été éliminé. Ses obsèques se déroulaient ce matin à Téhéran, suivies sur place par notre correspondant Siavoj Ghazi.
La disparition d'Ali Larijani est une perte très importante pour le pouvoir iranien. Il dirigeait le Conseil suprême de la sécurité nationale. Ce conseil réunit tous les hauts dirigeants politiques et militaires. Et donc, c'est ce conseil qui prend les grandes décisions en politique intérieure, mais aussi en politique étrangère. Donc, c'est un homme important qui disparaît, d'autant plus qu'il dirigeait personnellement les opérations de guerre. Malgré ça, les responsables du pouvoir serrent les rangs et disent donc qu'ils vont continuer à frapper de manière encore plus forte avec de nouvelles armes, de nouveaux missiles, à la fois Israël, mais aussi les bases américaines dans la région, mais aussi les zones civiles dans les pays arabes du Golfe Persique. C'est ce qu'a déclaré Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie iranienne. Donc pour Téhéran, même si la perte à l'Ali Larijani est une perte importante, le pouvoir dit tenir et donc affirme que dans quelques jours, les Iraniens vont célébrer leur victoire. Malgré ça, il y a eu dans la nuit de nouvelles frappes ciblées contre plusieurs quartiers de Téhéran, notamment tout près de chez moi. Un missile a détruit totalement deux immeubles de 6 à 7 étages et les habitants du quartier me disaient que très certainement il y avait un responsable du pouvoir qui était dans l'un des appartements qui ont été détruits et donc des frappes ciblées contre différents responsables du pouvoir. Il y a des rumeurs qui courent sur les différentes personnalités qui auraient été visées.
Et donc la mort du ministre iranien du renseignement, ça c'est ce qui a été annoncé ce matin par Israël. Siavosh Ghazi, correspondant de RFI et de France Inter en Iran. Pays voisin de l'Iran, l'Afghanistan. Lundi soir, le Pakistan a bombardé un hôpital pour toxicomanes de Kaboul. Une ONG internationale confirme un bilan de centaines de morts et de blessés. Des funérailles collectives ont lieu aujourd'hui dans la capitale afghane. Le Pakistan parle de cibles militaires et terroristes. On est au-delà de la douche froide aujourd'hui pour les supporters de l'équipe nationale de football du Sénégal. 2 mois après leur victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le jury d'appel de la Confédération africaine de football décide de leur retirer au profit du Maroc, finaliste malheureux et qui organisait cette compétition. Car si les Sénégalais l'ont bien emporté sur la pelouse, ils l'ont fait après que la quasi-totalité de l'équipe est rentrée au vestiaire pour dénoncer l'arbitrage. Et cela contrevient à 2 articles du règlement de la compétition. La loi est dure, mais c'est la loi. Nathalie Yaneta, vous êtes avec nous, directrice des sports de Radio France. Au-delà de la décision en elle-même, c'est quand même le calendrier qui interroge. Pourquoi si tard?
Alors si tard, parce qu'en réalité, cette finale qui s'est jouée le 18 janvier avait, dès le lendemain, fait l'objet d'un recours de la part de la Fédération marocaine. On était donc le 19 janvier. Les Marocains contestaient notamment, en vertu des 2 articles 82-84 du règlement de la FIFA qui dit que si vous quittez la pelouse, vous devez perdre sur tapis vert, et des sanctions ont été prononcées à la suite de ce premier recours marocain, notamment contre le sélectionneur Pape Thiaw, qui avait pris 5 matchs de suspension. Sauf que ce premier verdict-là a été contesté par les Marocains, et c'est celui-là qui, hier, est tombé. Il était 22h30, stupéfaction générale, personne ne s'attendait à ce que la décision soit prise et rendue à ce moment-là. Même les Marocains eux-mêmes ont fait un communiqué dans la nuit sur le mode « Oulala, nous ne voulions que le respect du droit, mais pas en dépit des performances sportives. Les Sénégalais ont immédiatement réagi en disant qu'ils allaient saisir la dernière des juridictions, c'est donc ce fameux tribunal arbitral du sport. Résultat des courses, eh bien un autre match est en train de s'engager entre ceux qui disent, vous l'avez dit vous-même, que la loi c'est la loi et il faut respecter cette loi, et ceux qui considèrent que 2 mois après, on n'enlève pas une victoire sur un terrain gagné en plus à la régulière pour le coup sportivement. Bah, c'est un autre match qui vient de s'engager. Cette finale sera sûrement la plus longue de l'histoire du football.
La blague du siècle, expression à la une de la presse sénégalaise ce matin. Merci Nathalie Yaneta pour ces explications. C'est le transfert de l'année. Il n'y a pas que dans le football, il y a aussi dans le monde littéraire. L'écrivain franco-algérien détenu pendant près d'un an en Algérie est libéré à l'automne dernier. Boualem Sansal va quitter son éditeur historique Gallimard pour une maison d'édition contrôlée par l'homme d'affaires Vincent Bolloré. C'est grâce à Antoine Gallimard s'est battu pour obtenir sa libération, mais Boualem Sansal explique aujourd'hui qu'il a eu avec lui des divergences sur sa ligne de défense pendant sa captivité, d'où l'amertume aujourd'hui de son éditeur chez Gallimard, l'écrivain Jean-Marie Laclaftine.
La maison est abasourdie. Il tient là un discours qui lui est soufflé par je ne sais qui, mais qui est vraiment d'une grande injustice. Ça provoque beaucoup de peine. Moi, je me sens blessé. J'ai été son interlocuteur pendant tant d'années et avec tant d'enthousiasme, de passion même. Et puis, je n'étais pas seulement un éditeur, j'étais un ami, vraiment. J'aime cet homme. Il a un talent fou, il est drôle, malicieux, irrévérencieux. Malheureusement, cette irrévérence, il est en train de la perdre complètement. Il est très révérent envers des gens qui, à mon avis, l'instrumentalisent et envers des courants de pensée qui n'étaient pas les siens autrefois. Il s'enferre dans un discours, Bohlem, qui est irrationnel, à mon avis. Quand il dit qu'il quitte Gallimard pour avoir une liberté de penser et d'écrire, mais c'est absurde de penser qu'il va trouver la liberté chez Bolloré et qu'il était en prison chez Gallimard. D'abord, c'est très insultant, et puis je crois qu'il ne mesure pas ses paroles ni ses actes. Il réalisera peut-être plus tard l'énorme erreur qu'il a commise.
L'écrivain Jean-Marie Laclaftine au téléphone d'Ilana Mor-Youssef. Combien nous coûte notre politique énergétique? La Cour des comptes, qui veille sur l'utilisation de l'argent public, est très attentive à ce sujet. Récemment, elle a épinglé les risques de dérapage pour la construction des futurs réacteurs nucléaires et elle alerte aujourd'hui sur le dispositif de soutien aux énergies renouvelables. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Ce sont près de 3 milliards d'euros par an.
Oui, ce soutien public a permis l'essor des énergies renouvelables en France, reconnaît la Cour, puisqu'elles produisent désormais 27% de l'électricité contre 18% en 2016. Mais le dispositif pèse lourd sur les finances publiques, car l'État garantit un tarif d'achat, généralement sur 20 ans, souvent bien supérieur au prix du marché, dit la Cour, qui pointe la surrémunération avérée, par exemple, des panneaux solaires installés avant 2010. Il faut donc des clauses de révision dans les contrats, selon le rapport. Autre inquiétude, la facture pour l'État est volatile, trop dépendante des fluctuations des prix du marché. Ainsi, quand le prix de l'électricité a flambé en 2022-2023, l'État a perçu près de 5 milliards d'euros de recettes versées par les producteurs de renouvelables sous contrat. Mais à l'inverse, quand les prix baissent, l'État doit leur verser une compensation. En 2025, la facture devrait ainsi s'élever à plus de 7 milliards d'euros, car la surproduction d'électricité a tiré les prix vers le bas. Mais pour Jules Nissen, président du syndicat des énergies renouvelables, le rapport de la Cour des comptes est trop sévère.
Moi, avant tout, j'aimerais rappeler quelque chose, c'est qu'une dépense publique en soi, c'est pas de la gabegie, c'est un investissement, et qu'en l'espèce, cet investissement, il vise à nous protéger et à créer de la résilience dans le système énergétique, dans un contexte où on reste très dépendant des énergies fossiles. L'actualité le démontre aujourd'hui, et moi, j'aimerais comparer les 2,9 milliards annuels de soutien aux énergies renouvelables sur la période 2016-2024 avec les 60 milliards d'importations d'énergie fossile en temps normal et les 124 milliards que ça a coûté en 2022.
En 2022, donc pendant la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine.
Explication Sandy Dauphin. Autre levier de la transition, le recyclage, et les constructeurs automobiles s'y mettent à l'exemple de Renault qui veut incorporer 30% de matières recyclées dans ses véhicules. Allons dans l'une de ses filiales, Indra, Prugny-en-Sologne. Une quarantaine d'ouvriers et d'ingénieurs travaillent à désosser les véhicules hors d'usage pour alimenter le marché des pièces d'occasion. Sur place, Maxime Deps.
Ça commence au début de la chaîne par sécuriser le véhicule à disséquer.
Donc là, on va déclencher les airbags. Et donc là, désormais, les démonteurs pourront intervenir en toute sécurité.
Vincent Charpentier, responsable du site qui surveille l'opération.
Le but étant de déterminer vraiment les pièces qui peuvent être remises sur le marché du réemploi.
Et il y en a.
Oui, il y a de quoi faire.
Adrien Saucé, qui est en charge de faire le tour de la voiture et de vérifier ce qu'il y a à en sauver.
J'ai vu qu'il y avait une porte arrière droite, une malle, un pare-choc arrière.
Rien ne se perd. Tout se transforme, y compris les éléments plastiques du tableau de bord au garde-boue.
Ensuite, ça sera broyé, donc on va en faire des chips.
Des chips de plastique envoyés au plasturgiste afin de réemployer la matière pour faire des véhicules aujourd'hui d'occasion.
Non, c'est un vrai sujet.
Sujet appelé à s'étendre pour Olivier Godot, en charge des relations publiques chez Indra, avec en toile de fond un texte aujourd'hui en discussion à Bruxelles.
Et en fait, il va imposer aux constructeurs, à partir de l'année 2032,
de réincorporer des matières plastiques recyclées dans de nouveaux modèles.
Les constructeurs qui ont également payé très cher leur manque de pièces venant d'Asie lors du Covid et qui ont sans doute aussi une carte à jouer dans le fait d'en recycler.
Ce qui nous amène à ce changement majeur dans nos salles de bain, on y trouve de moins en moins de baignoires. Selon une enquête du site de bricolage travaux.com, 3 personnes sur 10 qui possèdent pourtant une baignoire n'ont pas pris de bain depuis un an ou plus. Louise Adélaïde Boinard est allée le vérifier.
Un bon bain moussant, c'est non pour Zoé alors qu'elle possède une baignoire.
Pour laver mon chien, oui, sinon pas trop.
Ça prend du temps, ça prend plein d'eau, ça va plus vite de prendre une douche quoi.
En effet, un bain c'est en moyenne 150 litres d'eau consommée contre 60 pour une douche. Marion, elle, a enlevé sa baignoire quand ses petits-enfants ont grandi.
Je déteste les bains, à part pour baigner les petits-enfants, petits. C'est assez pratique. La douche, c'est vivifiant.
Parfois, c'est l'inverse. On a envie de se prélasser des heures dans une baignoire, mais impossible d'en installer une, comme le souligne Jennifer.
Les appartements sont petits, tout ça. Moi, j'habite à la campagne. Alors, mais j'adore les bains et les douches.
Des arguments qu'entend beaucoup Hubert Maître, le secrétaire général de l'Association des industries de la salle de bain.
On est une civilisation qui va plus vite. On estime un peu que prendre un bain est une perte de temps. En tout cas, c'est un luxe.
Un luxe, une expérience plutôt qu'une façon de se laver. C'est ce que constate Laure Maxence Cellier. Elle vend des baignoires haut de gamme chez Bibas à Paris.
On vend beaucoup, beaucoup de baignoires ILO, c'est-à-dire des baignoires vraiment décoratives qui permettent de prendre juste un bain. Et la douche, ils la prennent plutôt dans leur douche.
Une baignoire accessoire donc qui complète une douche plutôt que de la remplacer.
Reportage Louise Adélaïde Boinard, le cinéma.
Jack.
Hubert Bonisseur de la Batte.
Il s'appelle juste Leblanc.
Marcello.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul.
Mais qui est Kaiser Soze?
C'est avec vous, bonjour Alexis Demeyer, rebonjour. C'est pas le grand bain, hein. C'est la guerre des prix pour commencer un thriller dans le milieu de la grande distribution.
Je suis sûre que vous serez capable de trouver des alternatives aux industriels.
Mais qu'est-ce que tu vas aller foutre à la centrale?
Ils veulent miser à fond sur le local, c'est le bon moment pour faire changer les choses.
C'est très bien, tout ça c'est du blabla.
Le réalisateur Anthony Deschaux, dont c'est le premier long métrage, nous plonge dans les coulisses d'une centrale d'achat. Audrey, fille et sœur d'agriculteurs normands, monte à Paris pour négocier les tarifs des yaourts bio au profit d'une chaîne de supermarchés. Ce personnage très bien écrit est interprété par Anna Girardot. Olivier Gourmet et Julien Frison complètent le casting de ce film précis et documenté sur cette éternelle guerre des prix qui fait beaucoup de victimes, notamment chez les petits agriculteurs indépendants. Et c'est d'ailleurs un peu la limite du projet. Sans rien dévoiler du dénouement, on se doute quand même dès le départ que cette charge contre les méthodes de la grande distribution ne se conclura pas par un happy end avec la signature d'un contrat qui conviendrait équitablement à toutes les parties. Le suspense fait donc rapidement pchit, mais ça ne gâche heureusement pas l'intérêt de l'intrigue.
Un drame argentin retient aussi votre attention, c'est Las Corrientes.
Oui, et c'est un objet un peu à part, car ils ne sont pas nombreux les films contemporains qui laissent une place comme ça, aux non-dits, aux questions sans réponse. Las Corrientes, c'est l'histoire de Lina, une styliste de 34 ans, mariée et mère d'une petite fille, qui traverse une crise existentielle aussi puissante que les courants de la rivière dans laquelle elle se jette au début du récit.
Quiero que dejemos de hacer como que acá no pasa nada.
Avec beaucoup de raffinement et de délicatesse, la réalisatrice Milagros Mumentaler filme l'errance physique et psychologique dans les rues de Buenos Aires de cette femme hantée par un passé qui restera mystérieux. Depuis un événement violent, Lina souffre d'aquaphobie et ce rapport à l'eau qui se révèle très charnel évoque d'ailleurs un autre film féministe sorti récemment, The Chronology of Water de Kristen Stewart.
Un documentaire sur le théâtre également à l'affiche, c'est Précieuse.
Dans un lycée parisien, une prof de théâtre décide de monter les Précieuses Ridicule de Molière, mais en relisant la pièce avec un regard du 21e siècle.
Oui, parlez-moi d'amour.
Je t'aime.
Ah. Broder.
Je t'aime tant.
La réalisatrice Fanny Guillard-Norel nous immerge dans une classe de théâtre en pleine répétition, mais aussi en pleine réflexion, car interpréter un texte classique, c'est aussi le questionner et les échanges sont ici rafraîchissants. Dommage que ce joli documentaire sur l'apprentissage du théâtre se perde un peu en abordant en parallèle la question du handicap. Ce qui est dit est en effet très intéressant, très émouvant, mais c'est selon moi un autre film.
Quoi d'autre à l'affiche aujourd'hui, Alexis?
Bien sûr, Les Rayons et les Ombres, le drame historique de Xavier Giannoli avec Jean Dujardin dans le rôle d'un collabo. Projet Dernière Chance avec Ryan Gosling dans le rôle d'un prof de science qui se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial. Et La Danse des Renards, un drame sportif avec Samuel Kircher qui interprète un jeune boxeur en plein doute.
Alexis Demeyer, chaque mercredi dans ce 13-14, allez maintenant vous faire un avis en salle, 13h20 sur Inter. À À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Céline Dacosta. Et puis à partir de 13h30, nous parlons de la série Maison de retraite. Elle est diffusée en ce moment sur TF1. Quand la vieillesse fait rire, mais pas seulement. 01 45 24 7000 pour être avec nous pour parler, par exemple, de la vie en maison de retraite. 13h45, notre feuilleton. La route des municipales nous conduit à Lille aujourd'hui. Et puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Éric Fotorino, Julien Baldacchino. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Éric, la France et le pétrole.
Et oui Jérôme, en particulier le pétrole français, si rare que nous dépendons trop du marché mondial. La question est posée, comment s'en passer?
Et avec vous, Julien, un patron.
Guillaume Houzet, qui préside la Fondation d'art des Galeries Lafayette et qui va nous parler d'une chanson d'Alain Bachung, Nos âmes à l'abri.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Tu sais, sous nos pieds, un monde s'active pour nourrir le sol, pour faire pousser les forêts, les jardins.
Waouh, c'est fou tout ce travail. Et quand on protège la nature, on protège aussi tout ce petit monde?
Exactement. Et nous pouvons tous y contribuer.
Ah bon? Comment?
Eh bien, en agissant avec la Fondation Espace Naturel de France. Chaque jour, elle préserve durablement nos paysages, nos animaux, tout ce qui fait battre le cœur du vivant.
La nature vous rend ce qu'on lui donne. Ensemble, préservons la vie. Rendez-vous sur fondation-enf.org.
Chez Optique 2000, nos opticiens vous accompagnent pour mieux voir de près comme de loin. Jusqu'au 31 mai, moins 20% sur les verres progressifs pour l'achat d'un équipement correcteur. Alors, vous qui réglez la taille de caractère de votre téléphone en XXL et qui plissez les yeux devant la télé pour lire les sous-titres, n'attendez plus. Rendez-vous chez Optique 2000 pour profiter de 20% de réduction sur les verres progressifs et bénéficier de la garantie assurance résultat, adaptation satisfait ou échangée. Optique 2000, élu pour la 8e fois meilleur réseau d'opticiens. Voir conditions en magasin. Demandez conseil à votre opticien. Dispositif médical CE.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature. Par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Le printemps s'installe jusqu'au week-end.
Oui, et ça sur tout le pays. Ciel bleu et soleil sur la plupart des régions cet après-midi, accompagné d'une petite bise d'est, on va en parler, qui limite la montée des températures, en tout cas sur la moitié nord. On a tout de même quelques bémols, avec une dépression qui circule sur le sud de l'Italie et qui ramène ce ciel couvert sur un petit quart sud-est, entre le sud de la région Rhône-Alpes, la région PACA, la Corse, le Languedoc-Roussillon, où là on a de faibles averses, un petit peu de neige également sur le relief, et puis de bonnes rafales de vent entre 60-80 km à l'heure. Ça pourrait même grimper pour le vent d'autant sur le relief jusqu'à 100 km à l'heure dans la soirée.
Et Céline, les températures un peu plus chaudes peut-être?
Ben, la moyenne est de 3 à 6 degrés au-dessus des normales de saison.
Ce qui n'est pas très chaud, mais enfin,
c'est pas très
chaud. Au mois de mars, c'est un peu normal.
Ben, effectivement, mais là, on a des températures dignes d'une fin avril. Donc, vous voyez, donc c'est beaucoup plus que la moyenne. 16 à 22, ça c'est pour la moitié sud, avec encore des pointes à 25 degrés attendues au pied des Pyrénées comme hier. Et puis pour la moitié nord, je vous parlais de la bise, elle sera plus présente. Le ressenti un peu moins agréable, mais la moyenne ira encore de 14 à 16 degrés selon Météo France.
Céline Dacosta.
France Inter. De 13-14. Jérôme Cadet.
Maison de retraite, c'est comme ça qu'on appelait les établissements pour personnes âgées il y a quelques années, avant de les baptiser EHPAD. Et Maison de retraite, c'est aussi le titre de deux films en salle ces dernières années, 2022-2024, avec Kev Adams comme co-scénariste. Eh bien, les films à succès sont devenus une série diffusée en ce moment sur TF1, chaque lundi soir, avec 6 épisodes cette saison, à la réalisation Claude Zidi Junior. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. À l'affiche, entre autres, aux côtés de Michel Jonas, Chantal Latsou, Firmin Richard, Enrico Macias ou encore Daniel Prévost, nous avons le plaisir de recevoir Liliane Rovert. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur France Inter pour dialoguer aussi avec les auditeurs qui peuvent poser leurs questions. Vous les posez directement. 01 45 24 7000 pour nous appeler. Vous pouvez parler de la série, mais vous pouvez aussi parler de votre vie, peut-être en maison de retraite, ou de la perspective d'intégrer une maison de retraite. Ça vaut aussi si vous rendez visite à vos parents ou à vos grands-parents. Écoutons un extrait d'abord de Maison de retraite.
Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des personnes âgées?
Ma mère, elle serait trop fière si je suis pris. Si ça peut éviter la case prison.
On était d'accord pour des jeunes, pas pour des délinquants.
Ça va être ta fête, si on veut.
On va leur montrer qui sont les boss.
Comment ça, plus de goûter? T'es folle? C'est sacré le goûter.
Moi, ça me va, hein.
Et elle a dit à l'autre qui veut vous voir dans son bureau. Juste les anciens.
Oui.
Bon, c'est dynamique, c'est comique, mais il y a aussi du fond. On parle aussi de ce qui se passe dans les maisons de retraite. D'abord, un mot de la proposition, Liliane Rovert. Vous étiez, vous, dans Maison de retraite 2 au cinéma. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez reçu cette proposition? Deux vieux acteurs qui jouent les premiers rôles. Qu'est-ce que vous êtes dit?
Eh bien, j'ai pensé à ce que vous disiez tout à l'heure, de la vieillesse qui fait rire. Je pense que la vieillesse est un sujet très sérieux. Elle n'est pas forcément bien traitée dans nos pays, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt et de respect pour les vieux, qui sont, à moins d'être connus ou fortunés, sont gris, ils sont en pointillés.
Ouais. Effacés, vous diriez?
Oui, effacés, ouais. Mais là, il s'agit d'une comédie. Et quand la vieillesse fait rire, vous avez dit ce mot, ça m'a fait réagir, parce que c'est exactement ce qui se passe. On est dans une comédie sans tristesse, dans une comédie où les vieux sont sympathiques et drôles. C'est bien écrit, c'est bien joué, je crois, c'est bien réalisé, et ça marche.
Il faut en rire de la vieillesse ?
Il faut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, oui. Et pas n'importe quand.
On connaît la phrase. Est-ce que vous vous êtes dit, Liliane Rovert, quand même, au moment de voir le projet, mais qui est-ce que ça va intéresser de mettre des vieux comme ça à l'affiche?
Bien, je pense que ce mariage de la comédie et d'un sujet aussi gros, ça, c'est un mélange explosif. Je crois que on tient un gros sujet, on le traite en comédie, mais on tient un sujet très important. Et je crois que c'est ça qui fait le succès.
Oui, on le voit aussi aux États-Unis, hein, beaucoup de films autour de Robert De Niro qui a pu ouvrir la voie il y a quelques années. Mais ça a pu être difficile, peut-être moins pour la série Claude Zidi Junior, mais peut-être pour le film au départ, de convaincre des producteurs du projet.
Je sais que
projet.
Pour Maison de retraite 1, Kev et Elisa Soussan se sont battus pour que le film existe. Personne n'y croyait. Tout le monde leur disait, mais ça ne marchera jamais. Un film qu'avec des anciens, jamais personne. Et c'était que des acteurs de second rôle. Et c'est vrai qu'ils se sont battus. Et maintenant, c'est devenu une évidence quand le film a marché. Tout le monde trouve ça normal. Mais c'est vrai que oui, ça n'a pas du tout été un parcours de santé pour monter le film.
Du côté des producteurs, mais aussi du côté des peut-être des acteurs qui ne voulaient pas jouer.
Ah bah oui, tout à fait. C'est vrai que ce qu'on a remarqué quand on a commencé à faire le casting de la série Maison de retraite, ouais. C'est qu'on a eu pas mal d'acteurs qui nous ont contactés, connus, pour jouer dans la série.
Voilà, donc là, ça
oui,
s'était inversé.
Ça s'est inversé, exactement.
En quelque sorte. En même temps, la société vieillit, le téléspectateur aussi, donc c'est assez logique, finalement, de d'écrire, de raconter des choses qui sont dans la vie des gens.
Oui, mais après, c'est toujours le même souci, c'est d'être dans la sincérité et de pas se moquer, en fait. Et c'est vrai que la franchise, on va dire Maison de retraite, elle se moque pas des anciens. Et en fait, c'est les anciens qui font partie de l'histoire et on raconte leur quotidien à travers une maison de retraite. Et tout en mélangeant aussi avec le contact avec des jeunes, qui par exemple dans la série, c'est avec des tiges, qui font donc leurs travaux
d'intérêt généraux. Voilà ce qui suscite généraux. Beaucoup d'inquiétudes. Exactement. Chez les pensionnaires de la maison de retraite.
Et qu'après, c'est un mélange, une confrontation entre ces deux mondes-là. Mais ça permet aussi à faire que cette série et cette franchise, ça fasse un terreau commun culturel entre les générations. C'est-à-dire que c'est vraiment une série qu'on peut regarder en famille et d'avoir une discussion entre nous. C'est-à-dire avec les grands-parents, les enfants, un peu ce qu'il y avait à l'époque qui n'existe plus quand on était dans la voiture et qu'on était contraint d'écouter la musique des parents. Parce que maintenant...
peut aussi exister, hein. On peut mettre une enceinte et contraindre ses enfants
tout
à écouter
mais
sa musique.
Avant, on n'avait pas le choix, on n'avait pas d'alternative.
Voilà.
Maintenant, tout le monde a ses écouteurs, tout le monde est dans sa bulle culturelle. Et c'est vrai que voilà, la série permet ça.
Souvenir de longs trajets en voiture, par exemple. Bruno nous appelle de Poitiers. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, voilà, moi je voulais vous parler de l'expérience que j'ai des EHPAD avec
ouais.
Ma mère, qui est décédée il y a un an et demi à l'âge de 94 ans. Voilà, elle a vécu 6 ans en EHPAD à peu près, avant elle était en résidence senior. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que on entend souvent parler des EHPAD pour des problèmes de maltraitance du personnel, etc.
Ouais.
Que elle... Je peux vous dire qu'elle a été entourée jusqu'au bout avec un personnel attentif. Voilà, elle faisait partie d'une équipe qui faisait une émission de radio dans l'enceinte de l'EHPAD. Voilà. Donc, c'est pas pour ça que c'est drôle, la fin de vie, hein, mais il y a des jours, moi, j'avais au téléphone, j'habite à 300 kilomètres, donc, de là où il était, et au téléphone, bon, moi, elle me disait bien qu'elle s'ennuyait un peu, etc. Bah oui, c'est pas drôle, la fin de vie. Mais par contre, voilà, tous les EHPAD ne sont pas des mouroirs. Mmh, ouais.
Elle y a passé des jours heureux, vous diriez cela.
Ben, il y a une façon de finir sa vie plus ou moins heureuse. Ma maman a heureusement, je pense, fini sa vie grâce à l'aide de ma sœur d'ailleurs, et pour le coup était sur place, de façon assez heureuse. Le jour où, le jour où elle est décédée, en fait, quelques jours avant, elle est tombée, s'est cassée la hanche. Tout de suite, le personnel a appelé l'hôpital. Elle est hospitalisée, et puis après elle est décédée. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, malheureusement, on parle des EHPAD uniquement quand il y a des problèmes.
Ouais, et c'est pour ça qu'on tenait aussi à faire cette émission aujourd'hui. Merci Bruno pour votre témoignage. Liliane Rovert, qu'est-ce que vous connaissiez au fond des maisons de retraite avant de tourner la série et le film avant?
Eh bien, je n'en savais pas grand-chose. Je trouve personnellement regrettable qu'on regroupe les vieux entre eux au lieu de les garder en famille. Ça ne te fait plus.
Ouais, le maintien à domicile, comme on dit, c'était la règle avant.
Les gens qui gardent leurs vieux avec eux, quoi. Ouais. Comme on a fait dans ma famille à moi, on a gardé ma grand-mère, on l'a gardée jusqu'au bout. Donc les EHPAD, le premier film MDR, c'est arrivé en plein milieu du scandale des EHPAD.
Le jour même. Le jour de la sortie du livre Les Fossoyeurs de Victor Castanet, c'est le jour de la sortie du film.
Oui, donc ça a coïncidé et ça a fait un sujet d'actualité.
Ouais.
Et puis maintenant, il faut bien se rendre compte aussi qu'avec la génération des vieux, il y en a de plus en plus des vieux. Donc il faut bien compter avec. Il faut bien s'en occuper. Ce qui me choque le plus dans l'histoire des EHPAD, c'est pas comme le Bruno qui a eu une expérience heureuse.
Ouais.
C'est quand on fait qu'on profite de l'or blanc, qu'on fait marcher les billets.
On fait du business sur le dos des gens
âgés.
Ce qui est aussi un peu en filigrane, d'ailleurs, dans la série et dans le scénario, on parle du lien entre les résidents, les plus anciens et puis les jeunes qui font tourner. Il y a ces jeunes qui sont en tige. Ça veut dire qu'il y a des jeunes sur le plateau, aussi Liliane Rovert. Est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que vous racontez des choses? Votre vie, par exemple? Est-ce que vous leur en parlez?
Raconter ma vie, c'est beaucoup dire, mais je discute avec tout le monde. Moi.
Mais qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre ou de quoi est-ce que vous parlez avec eux?
Nous avons dans la série une jeune comédienne très douée, belle, et qui est une très bonne comédienne, et je lui ai dit, est-ce que tu pourrais parler un peu moins vite? Je trouve que les jeunes acteurs parlent trop vite. Ils pensent que c'est un naturel, que ça fait naturel, mais moi je trouve que c'est pas un vrai naturel. Et quand on parle un peu moins vite, on a le temps de laisser les idées et les images arriver.
Et alors, elle écoute?
Oui. Oui, elle écoute, bien sûr, elle écoute. C'est une bonne comédienne, elle écoute et elle arrivera.
Claude Zidi Junior, comment est-ce qu'on tourne avec de tels acteurs, des personnalités, sans doute très fortes, forte notoriété aussi, ils sont nombreux et ils sont aussi, et c'est une particularité, souvent ensemble dans les plans.
Oui. Ben on sait pas du tout, on n'a pas du tout choisi la facilité parce que dans le scénario, enfin dans la série, il y a pratiquement que des scènes où ils sont tous ensemble. Donc c'est un film choral à l'image. Et c'est vrai que non, c'est comme si je vous disais, est-ce que c'est simple de partir avec une Jaguar, faire une balade à la campagne? C'est des Rolls en fait. Donc ils sont là pour s'amuser et surtout ils ont un épanouissement de jouer parce que c'est la première fois qu'on leur propose de jouer longtemps sur un tournage. C'est-à-dire que souvent, par exemple, Daniel Prévost, sur le Dîner de cons, c'est 4 jours de tournage. Et c'est vrai que là, d'un coup, on lui permet de venir jouer pendant 45 jours, c'est-à-dire d'essayer plein de choses. Et donc, c'est vrai que pour eux, ils sont, c'est une cour de récré et ils sont là pour s'amuser. Donc, non, c'est pas du tout difficile. C'est un luxe.
J'ai lu, Liliane Rovert, que vous deviez passer une visite médicale, enfin tous les acteurs, avant d'être embauchés sur le tournage, c'est vrai?
Ah ben bien sûr, hein, les assurances veulent s'assurer, si j'ose dire, que je vais pouvoir être fonctionnel.
Vous êtes tous chez le même médecin?
Oui.
C'est un seul médecin qui fait ça.
Un seul médecin qui fait ça. Il est assis sur un tas d'or.
Ah, il y en avait un très connu avant qui s'appelait Zuccarelli.
Oui, Zuccarelli. Zuccarelli était très bien aussi parce que Zuccarelli était assez compréhensif. J'ai entendu une anecdote parler d'une comédienne qui disait à Zuccarelli que j'ai un cancer. Et il n'écoutait pas, elle lui disait « mais j'ai un cancer ». Il dit « j'ai rien entendu, j'ai un cancer, j'ai rien entendu ». Elle était en état de travailler, il n'a pas écouté son cancer, il a vu qu'elle était en état de travailler et il lui a permis de travailler.
Est-ce qu'il y a une petite boule au ventre quand on va voir ce médecin avant un tournage ?
Ouf, ça dépend pour qui, moi je n'ai pas trop de boule au ventre.
Non, il n'y a pas de...
Non, moi je suis, j'ai l'âge que j'ai, je suis vieille, je suis assez en bonne santé pour mon âge. Et il conclura ce qu'il voudra, mais jusqu'à présent, il m'a toujours laissé la porte ouverte.
Et pour suivre, Claude Zidi Junior, est-ce qu'il y aura une deuxième saison de Maison de Retraite qui est en ce moment ?
Ça, c'est que le public qui va décider. C'est vrai que les chiffres sont vraiment très bons pour les épisodes 1 et 2 et 3 et 4 d'avant-hier. Et on va croiser les doigts. Maintenant, c'est le public qui va décider. Mais oui, on est très chaud en tout cas.
Liliane Rovert, est-ce qu'on vous parle de votre personnage, de Sylvette, ou bien vous êtes toujours associé aussi à cette série 10% qui a eu un tel succès ? Ou bien est-ce que votre personnage de résident de cette maison de retraite, il vous amène à discuter avec les uns et les autres quand vous vous promenez ?
Oui, plus ou moins. Mais
plus ou moins.
Oui.
C'est pas le déclencheur, on va dire, de la conversation.
Sylvette, c'est une parmi les autres.
Ouais.
On est un groupe,
ouais.
C'est une famille.
Et donc, c'est le film choral, peut-être, et la série chorale, que l'on retient. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de Maison de Retraite. Liliane Rovert, on va vous retrouver lundi prochain, donc c'est bien ça. Et Claude Zidi, junior, avec nous, 13h45 sur Inter.
Et merci de nous avoir reçus.
Une semaine dans la vie d'une campagne électorale. Après Strasbourg hier, direction Lille aujourd'hui. Lille et ses quatre listes au second tour, enfin maintenant plus que trois depuis que le maire sortant socialiste Arnaud Deslandes a fusionné avec l'écologiste Stéphane Bally, dont le soutien était aussi convoité par l'insoumise Lawaria Hadouche. Et nous la retrouvons sur le marché d'Oisem, quartier populaire. Juste à côté d'elle, le sortant socialiste et ses militants, ils sont face à face.
Aujourd'hui, on est en plein cœur du marché de Oisem. Je suis née ici, j'ai grandi ici. En tant qu'habitante de Lille, j'ai toujours été déçue de la politique actuelle. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que je me suis présentée en politique. J'ai pas un parcours politicienne.
Comment tu vas ?
Ça va
et toi ? Ça va ?
Ça va bien ?
On compte sur vous dimanche prochain.
J'espère qu'ils vont... C'est tout juste. Hein.
Ouais, on a déjà vu des alliances crasses comme ça, mais bon. C'est pas grave, je suis la seule. Mais bon, c'est qui est décisionnaire ici ? C'est le peuple. Et quand le peuple se lève, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Stéphane Bally a préféré son intérêt personnel au détriment du général, comme d'habitude. Ouais. C'est le classique en politique. Hein. Mais ça changera avec moi. Merci beaucoup pour votre soutien. À bientôt. Merci. Je lance un appel à tous les déçus des écologistes, à tous celles et ceux qui souhaitent pouvoir appliquer un vrai programme écologiste. Alors, je les appelle à venir se mobiliser avec nous cette dernière semaine et à voter pour le seul vote courageux, celui de Lawaria Hadouche.
Ça va ?
Tu vas bien ? On a besoin de changement. Et je suis le seul changement maintenant qui reste à Lille.
Donc, jusque là.
On en a marre. Il faut que ça change. Merci beaucoup, c'est gentil.
Voilà.
On a besoin de vous. On va gagner.
Ils vont perdre.
Surtout pas, c'est la France insoumise.
Il faut qu'ils fassent leur carton, qu'ils s'en aillent.
Surtout pas,
vous lui dire, c'est Lawaria Hadouche. 70 ans qu'ils sont là, il faut qu'ils fassent leur carton.
Exactement.
Leur temps, il est fini.
Bonjour. Je suis Arnaud Deslandes, je suis la tête de liste de la liste Tout pour Lille demain. Merci beaucoup.
Je tombe sur lui en chair et en os. Inch'Allah qu'il aura deuxième tour.
Merci beaucoup.
Merci.
Moi, je ne suis pas là pour commenter les affaires qui sont pour le coup des affaires internes aux écologistes. Nous, la liste Tout pour Lille, la liste sortante du premier tour arrivée en tête, nous étions depuis le départ convaincus de notre volonté de vouloir faire alliance avec les écologistes. De toute façon, je l'avais dit depuis très longtemps, je l'ai dit même déjà depuis juin dernier, puisque j'étais prêt à un accord de premier tour.
Allez, pochonne.
Sans doute qu'il y a parmi les écologistes une forme de déception qui voulait être un autre accord, mais si l'accord a été conclu, c'est que la majorité d'entre eux souhaitaient aussi venir nous rejoindre et qu'on travaille ensemble, c'est ça le sujet, travailler ensemble pour l'avenir de Lille. Un avenir toujours plus juste, social, écologique. On s'est retrouvés sur ces convergences de programmes et sur ce socle de valeurs qui est le nôtre.
Bonjour, je m'appelle Violette Spielboot, je suis lilloise et candidate pour devenir maire de Lille en 2026. Finalement, ça clarifie le second tour. Il y a trois choix, le choix des extrêmes, RN ou LFI, le choix de la continuité avec Socialiste Vert qui dirige la ville depuis 25 ans, et puis le choix de l'alternance, du changement que je porte, et je crois que c'est ce qu'il faut pour Lille. Aujourd'hui, on est sous un rayon de soleil dans le parc qui entoure la belle piscine Max Dormois. Je dis encore belle parce que je l'aime, qui est pourtant si abîmée, si vieillissante, si mal entretenue. C'est une piscine qui est en très mauvais état. Les bétons, les vitrages, l'étanchéité, et dont on sait qu'elle va fermer. C'est une piscine qui s'endort tout doucement.
Il y a des enfants qui passent à côté de nous. On en a vu beaucoup depuis tout à l'heure. C'est aussi ça l'enjeu de cette piscine.
On est dans une région, vous savez, le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, dans lesquelles il y a moins d'enfants qui apprennent à nager. Moi, ma vision pour ce site, c'est une piscine métropolitaine écologique qui aura un bassin extérieur, un bassin intérieur et un grand pôle des sports nautiques. J'ai une forte ambition pour ce site.
Une semaine dans la vie des municipales, signée aujourd'hui Mathieu Bonnour, Benjamin Reyes. Demain, nous serons à Toulouse pour une émission spéciale d'une heure en direct de la place du Capitole.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h50, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Aujourd'hui, Éric, une histoire intime des chocs pétroliers.
Oui, Jérôme, c'est un slogan qui fit florès lors du premier choc pétrolier de 1973, après la flambée des prix consécutive à la guerre du Kippour. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Cette phrase fut en réalité matraquée dans tous les médias en 1976, mais elle fut attribuée au ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, qui dès décembre 1973 avait décidé du changement d'heure, la fameuse heure d'été, on ne sait jamais si on va gagner du sommeil ou pas, afin de limiter notre consommation d'énergie. Le président de la République, Georges Pompidou, avait prévenu « Nous faisons appel à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. » Bien avant Bruno Le Maire, le président Dandy se faisait photographier en pull à col roulé dans sa maison de campagne lotoise de Cajard. Et les idées fusaient puisqu'on en avait à revendre. On limita la vitesse sur les autoroutes, on interdit d'éclairer les vitrines après 22h et il fallut arrêter les émissions télévisées à 23h. Les temps ont bien changé.
Bon, on a des idées en France, d'accord, mais est-il vrai que nous n'avons pas de pétrole ?
Eh oui, Jérôme, nos gisements de France métropolitaine, essentiellement en Île-de-France et dans le Sud-Ouest, sont un peu secs. Ils fournissent environ 10 000 barils jour, soit à peine 1% de nos besoins. Voilà pourquoi nous dépendons maladivement de ce monde de brut qui, si j'ose dire, n'a jamais été aussi brut. Voilà pourquoi, surtout, nous avons besoin d'idées neuves. Nos ressources identifiées outre-mer, au large de la Guyane française, n'ont pas permis de constituer un gisement économiquement exploitable. Quant aux ressources en huile de schiste du bassin parisien, qui dépassent de beaucoup celles du pétrole conventionnel en exploitation, elles requièrent un procédé de fracturation hydraulique très polluant pour les valoriser et donc interdit. La loi Hulot de 2017 a donné le glas de la recherche pétrolière en France. Donc, place aux géotrouve-tout et aux fans du concours l'épine pour ne retirer du pied ou du pneu cette nouvelle épine.
Bon, on ne peut rien faire.
Disons que la porte est étroite. Depuis l'accord de Paris dont elle est à l'origine, la France s'est posée en championne des énergies décarbonées. C'est pourquoi le gouvernement a émis un avis négatif à la proposition qu'avait faite Manuel Valls, alors ministre des Finances, plutôt des Outre-mer, pas encore des Finances, oui, de relancer des projets d'énergie fossile dans ces territoires. Il avait pourtant argué que c'était le cas dans les pays voisins, au Guyana, au Suriname, au Brésil. Alors, faut-il rouler encore moins vite ? Revenir à davantage de télétravail ? Ne plus rouler en voiture le dimanche, généraliser les véhicules électriques, placer enfin les camions sur des trains. Pas simple, car qui dit énergie fossile dit énergie facile. À nous de vaincre cette facilité. Vous voulez un exemple ? Aujourd'hui, j'ai repris mon vélo pour venir jusqu'à vous, cher Jérôme. Les Chadocs pompaient, moi j'offre ma tournée à bicyclette.
Oui, mais il faut le faire toute l'année, cher Éric Fotorino. Je vous taquine, à la une du 1 cette semaine.
Le pétrole, bien sûr, mais au plan mondial. L'économiste Philippe Chalmin nous propose une très éclairante anatomie du marché et je vous recommande d'afficher notre infographie inédite sur ce qui vous reste de mur, très clair et très fouillé, proposé par Camille Borton sur les grandes routes du commerce mondial de l'or noir et sur le point chaud du détroit d'Ormuz, interro écrite mercredi prochain.
Il va falloir bosser. Merci Éric Fotorino du 1 Hebdo de C'est la France. Ah, c'est une chanson. Julien Baldacchino, votre invité aujourd'hui, dirige une grande fondation d'art.
Guillaume Houzé, héritier des Galeries Lafayette, dans la cinquième génération de la famille qui dirige le grand magasin parisien, et lui préside Lafayette Anticipation, qui est la fondation d'art contemporain de l'entreprise. Depuis la semaine dernière, il propose une exposition nommée « Pour toujours », orchestrée par l'artiste Maurizio Cattelan. Il a choisi de parler d'Alain Bachung et surtout d'une chanson nommée « Nos âmes à l'abri ».
Tout d'abord, Alain Bachung est un artiste que j'affectionne tout particulièrement, et si j'ai choisi « Nos âmes à l'abri », c'est parce que c'est une chanson qui me touche tout particulièrement, parce qu'elle dit quelque chose au fond de très simple et pourtant de très profond.
Marcher tout l'hiver dans la poudreuse jusqu'à la maison fleurie. Sous les montgolfières, nos vies heureuses, que demander au Seigneur ?
On cherche tous un endroit, finalement, où poser nos vies. Et je crois que dans ses paroles, il parle de choses, au fond, très prosaïques, marcher dans la neige, une maison fleurie, un jardin à salon. Et on sent qu'il s'agit moins d'un lieu que d'un moment de grâce, d'un instant où l'on se sent protégé du tumulte du monde.
Cette idée d'un abri pour soi, pour son âme, pour des âmes, c'est une idée qui fait écho chez vous. Vous avez besoin d'avoir un lieu, un moment, un temps comme ça, comme une sorte de refuge.
Oui, je crois que c'est absolument essentiel. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est que la chanson ne parle pas finalement de grands exploits, mais de choses que l'on construit patiemment, un lieu, une relation, un amour, comme si le vrai luxe dans la vie, finalement, n'était pas le mouvement permanent, mais justement, cette capacité à créer un espace de paix.
Que nos pas dans la neige nous redonne la grâce. L'illusion d'un cortège, le parfum à la glace.
Pour moi, cette chanson rappelle justement que dans ce monde qu'on pourrait qualifier quasiment de dystopique, je crois que le plus précieux est peut-être justement cela, trouver quelqu'un ou un lieu avec qui l'on peut mettre simplement nos âmes à l'abri, comme il le dit très, très justement.
Il y a une sorte d'idée de finale, d'arrivée, que finalement c'est vers cet abri, vers ce sentiment-là qu'on va naturellement, comme on va vers le bout de sa vie.
Certainement, je crois qu'on passe, comme dirait Bachung, comme des météores, donc autant laisser des éclats de beauté.
Mettre nos âmes à l'abri.
Nos âmes à l'abri, cette chanson, Julien, figure en dernière place du dernier album posthume d'Alain Bachung, un artiste qui a accompagné Guillaume Houzé, nous dit-il, pendant toute sa vie.
Ses paroles, sa musique, sa voix à la fois douce et grave et mélancolique. C'est un immense artiste, un poète que j'affectionne tout particulièrement depuis très jeune en fait, très très jeune. Alors j'ai des goûts tout à fait éclectiques qui vont de Bachung à Jay-Z, en passant par Arcade Fire, donc c'est pour vous dire mes goûts musicaux qui sont très hétérogènes, mais Bachung m'accompagne depuis toujours comme un fil rouge, et je ne me lasse pas, et d'ailleurs je fais découvrir sa musique aujourd'hui, encore maintenant, à mes enfants.
Cette chanson, vous l'écoutez dans des circonstances particulières, à des moments précis?
Ah, je l'écoute beaucoup, je l'écoute énormément. Comme je vous le disais, cette musique est au fond à la fois très, très riche, très belle, avec un grain de mélancolie. Mais en fait, c'est comme un signe d'espoir aussi, comme un éclat de beauté dans ce monde qui en a tant besoin.
Nos âmes à l'abri, chanson d'Alain Bachung, c'était le choix de Guillaume Houzé. Il accueille donc aux Galeries Lafayette à Paris cette exposition nommée Pour toujours, 4 grandes installations à découvrir, c'est gratuit et c'est jusqu'au 27 avril.